Et je suis de plus en plus persuadé que ça déborde un peu le temps qui nous est imparti. Ça, c'était très sensible la fois dernière. Donc, je vais essayer surtout de ne pas prendre de retard, c'est-à-dire d'avancer, parce que, évidemment, le plus important est à la fin. Alors, s'il faut l'expédier à toute vitesse, c'est un peu dommage. Donc, ça suppose un peu que, malgré tout, à ces allez-vous, vous regardiez, vous puissiez le relire et le regarder, parce que j'essaie d'être relativement complet. On m'a toujours dit que ces cours correspondaient à peu près à ceux qu'on donnait aux séminaristes, vous voyez, pour vous dire à peu près le niveau où nous sommes. C'est pas un enseignement supérieur de haut niveau, mais c'est quand même plus que de la vulgarisation. Donc voilà, alors j'essaie de faire figurer les éléments, puis enfin bon, je crois que mon polycopier est relativement utilisable. Bon, donc voilà, je vais essayer de. Alors, la deuxième question, vous le rappelez-vous, la fois dernière, ça s'appelait Dieu a parlé. Donc, c'était l'initiative de Dieu qui a décidé, dans l'histoire d'Israël et puis dans le christianisme, de manifester sa pensée sur l'homme, sur sa destinée, sur ce qu'il a fait. Alors, maintenant, nous allons nous regarder le récepteur, enfin le destinataire, c'est-à-dire l'homme. Que doit être cet homme? Voilà, venez, 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 approchez-vous. Que doit être cet homme pour qu'il puisse capter le message que Dieu lui destine? Donc, c'est la question de la liberté, c'est aussi la question de la conscience. Donc, c'est ça que nous allons voir aujourd'hui, si vous voulez bien. Alors, j'ai cité dans mon introduction la phrase du Concile Vatican II, enfin, c'est pas du Concile Vatican II, c'est du Concile Vatican II, citant un passage du livre de l'Ecclésiastique, ou autrement appelé Siracide, l'homme a été remis à son conseil. C'est-à-dire que Dieu a pas voulu faire avec l'homme ce qu'il fait avec tout le reste de la création, c'est-à-dire avoir une action directe et qui leur dit bah, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il a voulu passer par une délibération de l'intelligence de l'homme qui reçoit ses commandements de façon raisonnable. Alors, je vais reprendre un plan classique, qui est un plan que je n'ai pas suivi dans le dernier cours, mais qui sera sans doute celui de la plupart des autres, c'est-à-dire un parcours des sources, les sources Ancien, Nouveau Testament, Père de l'Église, Docteur, et puis les problématiques modernes, avant une partie plus réflexive où je rebâtis enfin, ce que j'ai à dire, quoi, les petits bouts qu'on a trouvés enfin, dans les différentes sources. Il s'agit de recomposer quand même une réponse cohérente à la fin. Mais l'idée, vous voyez, c'est qu'on fait toujours de la théologie, même si on ne le présente pas comme ça, à partir de sources. C'est-à-dire que ce n'est pas moi je pense que, ou il me semble que le christianisme c'est ça, mais d'essayer d'être aussi près que possible des documents qui nous ont nourris, qui nourrissent notre foi, c'est-à-dire principalement l'Écriture sainte, mais aussi qu'on appelle la tradition, c'est-à-dire en fait d'abord les pères de l'Église, puis les docteurs du Moyen Âge, plus les papes, etc. Alors, l'Ancien Testament est évidemment très riche pour notre sujet. Alors, je passe rapidement sur Genèse 2, dans lequel il y a un commandement qui est donné à l'homme. Et ce qui est intéressant, c'est que ce commandement, donc tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangerais, ou tu en mangeras, de mort, tu mourras. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est un commandement, mais sur le fond d'une permission. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc on ne commence pas par un commandement négatif, on commence par une vaste permission au milieu de laquelle il y a une interdiction. Donc ceci est intéressant parce qu'on voit que Dieu, surtout dans l'innocence originelle, n'est pas là derrière chacun pour leur dire tu feras ceci, tu feras cela, mais qu'il donne une permission générale dans laquelle il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et qui ne sont pas une contrainte, une manière de brimer l'homme, comme le serpent essaiera de persuader Ève, mais que c'est au contraire quelque chose qui est destiné à le faire grandir. Alors, avec le crime de Caïn, on est face à un cas, premier cas donc d'un crime proprement dit, qui se révèle et dans lequel Dieu a prévenu l'homme. C'est ça qui est très curieux. Alors, les versets 6 et 7 du quatrième chapitre de la Genèse, vous regarderez dans vos Bibles, il y a des problèmes de traduction assez importants, ça vous explique des différences. Enfin, peut-être que dans votre Bible, ce n'est pas exactement traduit comme ça, c'est un texte difficile. Mais enfin, globalement, Dieu avertit Caïn qui va être tenté et lui dit, fais attention, mais si tu es bien disposé, tu pourras relever la tête, tu pourras le péché peut-être à ta porte, mais toi, tu peux le dominer. Alors, ensuite, le détail du texte est difficile, encore une fois. Donc, même si la tentation est annoncée, enfin, Dieu est bon, il signale la tentation avant qu'elle soit, elle ait donné ses mauvais résultats, mais on sait que Caïn peut savoir que ce n'est pas une fatalité, quoi, qu'il n'est pas entraîné forcément dans ce sens-là. Alors, l'alliance, le schéma de l'alliance, il est partout, mais il n'est pas explicite dans les premiers chapitres de la Genèse. Par contre, évidemment, à partir du moment où Israël se manifeste, le schéma de l'alliance devient plus explicite. Donc l'alliance suppose deux partenaires, c'est une évidence, et en l'occurrence deux partenaires libres. Et ceci est marqué de façon très impressionnante dans un texte que la liturgie du dimanche nous donne généralement à la fin août ou début septembre, dans lequel il y a l'assemblée de Sichem, dans lequel Josué dit aux Israélites qui se sont installés sur la terre promise, bah, il faut choisir, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez suivre le Dieu d'Israël, moi pour moi c'est réglé, je le ferai. Mais vous pouvez encore choisir d'autres dieux si vous voulez. Enfin, il semble leur dire, voilà, vous avez les cartes entre vos mains, qu'est-ce que vous voulez? Alors tout le monde dit, oui, on veut suivre le Seigneur, on veut... Alors dit, oui, mais alors attention, à partir du moment où vous le suivrez, il y aura des exigences. Oui, oui, pas de problème. Et c'est là qu'on dresse une stèle en souvenir de cette décision. Donc l'alliance suppose deux partenaires libres, qui ne sont pas évidemment sur le même plan, puisque Dieu est... Mais l'homme n'est qu'une créature, mais malgré tout, Dieu attend de l'homme une adhésion. Il y a un autre texte qui est dans le Deutéronome, que je n'ai pas cité là, mais dans lequel Dieu a obtenu de toi cette réponse, qu'il est ton Dieu personnel et que tu le suivras. Dieu, c'est presque un échange de consentement au moment d'un mariage, quoi. C'est pour ça que les prophètes, après, vont interpréter ça de façon comme une alliance nuptiale. Mais il y a l'idée, donc, de deux partenaires qui, sans être égaux, dont la démarche est prise en compte, la démarche de l'homme est prise en compte par Dieu. Et alors, je vous mets là aussi le texte de Deutéronome 30, le fameux texte sur les deux voies, dans lequel Moïse dit à Israël, ben voilà, t'as deux voies, hein, la voie de la fidélité ou la voie de l'infidélité, du péché, de la justice. Alors d'un côté c'est la vie, l'autre côté c'est la mort. Alors on a envie de dire, drôle de choix, enfin, c'est la carotte et le bâton, quoi. C'est pas vraiment le choix, puisque dans un cas... Mais il faut bien comprendre que puisque l'homme a été fait pour Dieu, s'il s'éloigne de lui, forcément... même pas Dieu qui va le punir, il va se punir lui-même. Donc en fait, c'est un avertissement. Ce n'est pas une sentence, un châtiment ou une menace, c'est avant tout une conséquence. Si l'homme s'éloigne de sa vocation, enfin si Israël en l'occurrence s'éloigne de l'appel de Dieu, il y aura des conséquences. Donc Dieu avertit, hein, et dit, si, et je crois que c'est comme ça qu'il faut le prendre, pas plus que par une espèce d'autoritarisme divin qui dirait bah, si vous ne me suivez pas, il va vous en cuire. En réalité, c'est par respect pour nous, finalement, il nous a fait pour lui, nous sommes la seule créature avec les anges, était fait pour Dieu, pour le rencontrer. Et donc, c'est tellement inscrit dans notre être que si on le fait pas, il y a quelque chose qui va pas pour nous. Et ça, c'est assez bien, ça, enfin, c'est nettement marqué dans l'Ancien Testament. Alors, je note quelques expressions à propos de David, qui est une grande sensibilité religieuse, David. Donc, il y a deux moments où il perçoit qu'il est en train de faire quelque chose de grave et il s'en repent. C'est un grand péché que j'ai commis, c'est à propos du recensement. Et le cœur, lui, au moment, c'est un peu avant, quand il est poursuivi par Saül, il y a un moment où Saül rentre dans la grotte d'En-Gedi, alors que lui, il est caché au fond. Saül ne le voit pas, et fait ses besoins à cet endroit-là. Et David prend son couteau et coupe un pan du manteau de Saül. Et on dit, la main tremble. Il a peur d'aller jusqu'à commettre un crime, et donc il se met en garde. Enfin, on a vraiment le sentiment d'une conscience vive qui est émue du danger qu'il a, qui pourrait l'entraîner loin de la volonté de Dieu, qui ne se fasse pas justice à lui-même. Alors par contre, ça ne va pas fonctionner dans un autre cas, qui est celui de la séduction de Bethsabée et la mort d'Uri, son mari, dans lequel David ne s'est pas... Et curieusement, il a conscience de rien. Il faut que le prophète Nathan vienne lui raconter une histoire symbolique d'abord, pour qu'il finisse par comprendre que c'est ce pécheur, c'est toi. Hein. Et alors là, David tombe de haut et fait pénitence, mais là, sa conscience n'a l'air de lui avoir absolument servi à rien. Enfin, il n'a pas eu conscience qu'il était en train de faire un crime abominable. Et donc, c'est très frappant, parce que d'un côté, on a une sensibilité au péché très grande, et de l'autre côté, bah, pas du tout. Mais c'est bien ça, l'être humain. Hein. Parfois, des aberrations, les gens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire quelque chose de grave, et qui, par ailleurs, s'accusent d'une peccadille. Enfin, ça... alors, dans les psaumes, qui sont très riches aussi pour la sensibilité religieuse, eh bien, bien sûr, on a le grand psaume 50, « Mon péché, moi, je le connais, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. » Donc, le sentiment du péché de l'âme qui confesse son péché devant Dieu, mais qui le fait dans, non pas comme quelque chose d'éprouvant, mais au contraire comme le commencement de la libération. Parce que de pouvoir reconnaître son péché devant Dieu, c'est sortir de l'état malheureux où on était, on s'éprouvait une culpabilité vague. C'est au contraire de pouvoir voir où ça va pas et pouvoir le dire devant Dieu, parce que comme ça, il y a peut-être un remède qui va pouvoir apparaître. Alors par contre, c'est une des particularités des psaumes, il y a ces nombreux cas où le psalmiste se disculpe au contraire. « Mon innocence parle pour moi » ou « Ma bouche n'a point péché ». Mais le psalmiste, enfin les psalmistes, il y a plusieurs auteurs des psaumes, savent aussi que Dieu lit dans les cœurs. Hein, c'est cet étonnant psaume 138 qui on raconte, l'homme dit, ben voilà, je monte dans les cieux, tu y es, je descends sous terre, tu me précèdes, tu sais tout de moi, tu perces de loin mes pensées. Alors, un peu dans le même genre, Job, qui commence par se disculper, qui dit, moi, je n'ai rien à me reprocher, j'ai toujours agi droitement. À la fin, malgré tout, quand Dieu va se montrer à lui et lui révéler que peut-être il ne sait pas tout et qu'il n'a peut-être pas tout compris, Job finit par faire pénitence dans la poussière et la cendre. Donc, ce qui prouve encore une fois que la conscience est un signal important, mais qu'elle ne fonctionne pas toujours parfaitement. Bon, je passe un peu rapidement, j'arrive au Nouveau Testament. Alors, dans le Nouveau Testament, Jésus sollicite de diverses façons la liberté, c'est évident. Jeune homme riche, il lui dit, si tu veux être parfait. ou encore si quelqu'un veut venir à ma suite. Donc ça ne se présente pas exactement comme un ordre, ça se présente comme une invitation qui fait appel à la liberté. Et on peut dire que les béatitudes sont un peu de ce genre. Les béatitudes, ce n'est pas un tu dois, ce n'est pas un impératif catégorique, c'est une manière de dire c'est beau de faire comme ça. Donc d'éveiller en nous une espèce de dire ah oui, ça vaut la peine, j'y vais. Donc de faire appel beaucoup plus profondément à notre liberté. Alors sur la conscience, on voit Jésus en parler à travers une très belle image qui est celle de l'œil. L'œil, évidemment, ce qu'il voit, et nous avons un œil intérieur qui peut percevoir ce qui est bien ou mal. La lampe du corps, c'est l'œil. Alors, bien sûr, mais il veut dire aussi que l'âme a un œil aussi. Donc, si ton œil est sain, ton corps tout entier sera lumineux. C'est-à-dire, si ta conscience est droite, si ta perception du bien et du mal est juste, ton cœur, tu seras tout entier dans la lumière. Si ton œil est malade, ton cœur sera tout entier, ton corps sera tout entier ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, quelle ténèbre? Donc si tu as une conscience obscurcie, tu ne vas pas aller loin. Alors, il faut sans doute prendre aussi en ce sens-là la béatitude des cœurs purs. Est-ce que pur, très probablement, ça désigne le fait au fond de ne pas jouer sur tous les tableaux, quoi, d'avoir une orientation préférentielle auquel on est fidèle. L'impureté, c'est de vouloir avoir tout en même temps et ne pas faire de choix. Donc la pureté, c'est de donner à Dieu la première place, c'est d'être... Donc cette pureté de cœur ouvre les yeux, crée une juste perception des choses divines et donc donne une idée plus juste de ce qu'est la volonté de Dieu. Pureté, c'est-à-dire le fait que notre volonté soit plus directement tournée vers le but et ne soit pas en train de marier la carpe et le lapin, de vouloir le beurre et l'argent du beurre, enfin toutes ces choses-là, eh bien, donc, à cause de ça, elle aura plus de lucidité de notre conscience pour discerner le bien du mal. Et puis, bien sûr, il y a cette phrase prodigieuse que saint Jean nous donne, « La vérité vous rendra libre ». La vérité, entendez bien, dans la Bible, c'est pas la définition classique de la philosophie, mais c'est le fait d'être solide, d'être sûr. Dans l'Ancien Testament, c'est très clair. La vérité, c'est une parole ferme, une parole qui ne se démentira pas, dans laquelle on ne va pas tourner les choses dans tous les sens. On n'aura pas deux paroles, on a une parole. Donc, la vérité, c'est cette fermeté, cette solidité, cette stabilité. Eh bien, si on veut cette vérité-là, eh bien, on sera libre. Le mensonge, qui est le contraire de la vérité, et l'esclavage par lui-même. Enfin, un jour, j'ai vu ça d'une façon étonnante. J'ai connu quelqu'un qui faisait croire qu'il venait de faire un héritage absolument faramineux, et ce n'était pas vrai, mais pour se rendre intéressant, il avait dit ça. Elle avait dit ça. Et comme elle commençait à faire des cadeaux, comme si elle va gagner des sommes fantastiques, ce n'était pas vrai. Et à la fin, comme elle ne pouvait plus s'en sortir, elle n'osait pas dire qu'elle avait menti, elle s'est suicidée. Ça m'a marqué combien le mensonge pouvait être terrible et avoir enlevé toute liberté à l'être. Bon, alors saint Paul a un enseignement extrêmement riche sur la conscience. Il emploie pour ça un mot qui avait un peu court dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, et Sunaidesis, et qui n'est pas un mot philosophique. Donc, pour lui, il est clair que tout homme, donc les païens compris, à sa naissance, a une loi intérieure qui lui est donnée, qui lui permet de discerner le bien du mal. Donc je vous cite le grand passage de l'Épître aux Romains. « Quand des païens privés de la loi accomplissent naturellement les prescriptions de la loi, donc privés de la loi parce qu'ils ne sont pas juifs, ils accomplissent librement, naturellement les prescriptions de la loi, ces hommes, sans posséder de loi, se tiennent à eux-mêmes lieu de loi. » Car leur conscience leur dicte à l'intérieur une part au moins de cette loi. Ils montrent la réalité de cette loi inscrite en leur cœur, à preuve le témoignage de leur conscience, ainsi que les jugements intérieurs de blâme et d'éloge qu'ils portent les uns sur les autres. Et si nous pouvons dire « Monsieur Untel a fait une belle action », au contraire « Monsieur Untel a fait un crime terrible », c'est que nous avons instinctivement une sorte d'étalon de mesure qui fait qu'on sait qu'une chose est plus belle qu'une autre ou plus laide qu'une autre. Et ceci est important, évidemment. L'être humain, spontanément, il a des valeurs. C'est Platon l'avait déjà remarqué. Nous avons une participation au bien qui fait que nous pouvons dire une chose est meilleure qu'une autre. Eh bien, c'est parce que nous avons une... Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans tout le détail de ça, mais vous voyez, saint Paul nous développe ici l'idée de la conscience comme participation à la loi divine qui est inscrite au fond de nos cœurs. C'est pourquoi les païens sont, comme il dit, inexcusables de ne pas avoir reconnu le vrai Dieu, d'abord, d'avoir remplacé par des idoles, et de se livrer à toutes sortes de dépravations. Alors là, il y a un paragraphe sur l'homosexualité qui mériterait peut-être d'être accusé en justice pour homophobie, je ne sais pas, et dans lequel il dit le désordre de la sexualité des hommes et des femmes, il est précis, enfin, il y a tout autre, et qui peut se produire en ce domaine-là. Donc, ils sont inexcusables, connaissant la loi de Dieu. Alors, ah oui, mais enfin, ils ont une connaissance imparfaite, incomplète, puisque Dieu a assez révélé à Moïse, c'était bien pour faire ce que c'était utile quand même de se révéler. Mais saint Paul tient quand même au fait que l'être humain, plan naturel, dispose d'une certaine perception du bien et du mal. Et il donne une illustration tout à fait frappante de ça, toujours dans l'Épître aux Romains, mais un peu plus loin, au chapitre 7, en nous disant, ce texte qu'on connaît tous, hein, « Je ne fais pas le bien que je voudrais, je fais le mal que je voudrais éviter, etc. Je peux bien avoir l'idée de ce qu'est le bien, ma conscience me dit suffisamment ce qui serait bien, mais en fait, quand il s'agit de le faire, je ne le fais pas. Voilà. » Et alors je découvre une autre loi dans mes membres, comme il dit. Donc il y a non seulement la loi de Dieu qui parle par la conscience, mais il y a une espèce de fatalité qui vient du péché originel, évidemment, qui nous entraîne de l'autre côté. Bon, dans plusieurs cas, il parle de prendre une décision en conscience, c'est-à-dire pas guidé par l'intérêt ou par la crainte, mais vraiment par face à Dieu, quoi, dans la pureté de notre cœur. Alors, il y a une déclaration qui est très éclairante, il parle de lui, là, « Ma conscience ne me reproche rien, mais je ne suis pas justifié pour autant. » Donc la conscience n'est pas un guide sûr à tous les coups. Elle n'est pas autonome, elle est liée à la foi. Alors, on voit que très souvent, Paul rapproche la conscience de la foi. Alors, il dirait, oui, mais les païens ont aussi une conscience. Oui, mais elle serait meilleure s'ils avaient la foi. La foi fait quand même progresser la conscience. Et alors, tout ça aboutit chez Paul à ce grand enseignement, c'est si important, sur la liberté chrétienne. Alors, il faut se rendre compte que liberté, dans le langage grec qu'utilise saint Paul, c'est un terme qui a d'abord un sens politique. La liberté, c'est pas seulement la liberté intérieure, c'est le fait de ne pas être esclave, quoi. c'est un statut social, un homme libre, c'est pas un esclave. Donc, il y a dans la liberté, il y a l'idée d'une certaine dignité de celui qui décide, qui a une place dans la cité, qui est... on ne peut pas complètement enlever cet arrière-plan à la notion de liberté. Pour nous, liberté, c'est beaucoup plus proche de ce qu'on va appeler après le libre arbitre, c'est-à-dire la possibilité de choisir une chose ou une autre. Mais quand saint Paul parle de liberté, il le prend plutôt au sens de cette espèce de dignité de quelqu'un qui est maître de lui, qui a certains statuts et qui peut se permettre d'agir de façon digne et noble en quelque sorte. Alors, il soutient beaucoup que par la foi, par la grâce, nous sommes devenus libres. Et que, alors il a des formules qui sont très fortes, hein. Tout est pur au pur, hein, c'est dans Romains 14, et aussi le tout est permis, qu'il emploie quelquefois. Alors, je veux dire quand même, M. Saint-Paul s'exagère un petit peu. D'abord, il y a la loi Moïse qui n'est pas abolie dans ses commandements moraux. Il y a les règles que vous donnez vous-même aux communautés que vous dirigez, etc. Pourquoi vous dites tout est permis ? Bien, c'est-à-dire que le chrétien est affranchi des puissances de la chair et du sang, comme ils disent ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'a plus... il n'est plus esclave de son égoïsme, de sa volonté de puissance. Il a acquis une liberté par son rencontre du Christ, et désormais, il faut qu'il en profite, quoi, qu'il ne retombe pas dans cet esclavage qui est celui du péché. Parce que souvent, les gens qui se croient libres, en fait, ils ne sont pas libres du tout. Ils dépendent de l'opinion du voisin, ils dépendent de la crainte qu'ils ont d'être mal jugés, ils ont peur des conséquences qu'aurait pour eux un choix trop tranché, ils ont peur de se brouiller avec leur entourage. Enfin, donc ils ne sont pas libres. Hein. Et donc, par contraste, le chrétien est libre, puisque eh bien, il a à répondre qu'à Dieu de sa vie. Et donc, il dit, Seigneur, peut-être que les gens ne vont pas apprécier ce que je vais faire, mais tu me le demandes, je le fais. Voilà, c'est ça la liberté chrétienne. Tout est permis, mais tout n'est pas opportun, comme il le dit aussi un peu plus loin. Et alors, je finis le passage sur saint Paul par cette déclaration qui est aussi dans l'Épître aux Romains, décidément, on s'en sera beaucoup servi. Que le renouvellement de votre jugement vous transforme, le renouvellement par la lumière du Christ, hein, vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Donc, éclairé par la foi, la conscience est fortifiée, rectifiée en quelque sorte, et sauront ce qu'il faut qu'on fasse pour bien agir. Voilà. Bon, je me donne 5 minutes pour voir les pères et les docteurs de l'Église ancienne. Alors, j'ai épinglé. Alors, c'est évidemment terrible de passer si vite sur des choses, mais j'ai épinglé quelques points avec à Justin, on attribue, à juste titre d'ailleurs, celui qui a le premier acclimaté en régime chrétien la notion de libre arbitre, qui est la capacité, ce qu'on va appeler la flexibilité du vouloir, c'est-à-dire le fait que je peux dire oui ou je peux dire non. Je ne suis pas programmé comme ça, donc je peux dire un oui ou un non. Et il insiste pour dire que Dieu, les anges et les hommes sont libres et donc en ce sens ils ont une responsabilité parce qu'ils sont libres justement. Alors saint Augustin a une position qui peut paraître étrange parce qu'en fait, il se bat sur deux fronts. Il a d'abord fait railler avec les manichéens. C'était un ancien manichéen lui-même, vous savez. Donc, il a pour dire la liberté humaine, c'est essentiel. Il n'y a pas un dieu du mal, un dieu du bien. Le mal n'est pas dans l'être. Donc, il n'y a aucune fatalité à ce que nous suivions le mal. Le tout, c'est bien garder notre liberté, justement, et choisir raisonnablement, inspiré par la foi, etc. Alors ça, c'est face aux manichéens. Mais face aux pélagiens, vous savez, en gros, ce qu'était l'erreur de Pélage, c'est-à-dire d'affirmer que, en quelque sorte, l'homme était tellement libre que Dieu lui mettait les cartes en main, et puis si c'était bon, bah, il serait récompensé, si c'était mauvais, il serait puni. Donc en fait, Dieu ne se contentait que d'enregistrer la réponse de la liberté humaine, ce qui était quand même un peu fort. Et donc saint Augustin met en valeur le fait que l'homme n'est pas si libre que ça, que le péché originel lui a enlevé beaucoup de ses capacités, etc., et qu'il hérite d'une nature humaine affaiblie. Donc à la fois, vous voyez, il défend la liberté et en même temps, il affirme que l'homme, du fait de son péché, s'est mis dans une situation fâcheuse et que sa liberté elle-même en est atteinte. Saint Augustin dit quelque part, enfin qui avait fait l'expérience de ça au moment où il essayait de commencer à se séparer de sa vie du passé pour aller vers le Christ, et il dit, je dis à ma main, fais ça, et elle le fait à peu près bien, je dis à mon âme, fais ça ou ne fais pas ça, j'y arrive pas. Je commande à ma main, je n'arrive pas à commander à mon âme. C'est quand même un peu fort. Je ne suis pas maître chez moi. Enfin, il y a des choses par lesquelles je renacle et que je n'arrive pas à faire. Alors, avec la conversion, bien sûr, il arrivera à les faire, mais il a fait l'expérience de cette espèce de division intérieure du vouloir qui fait que la liberté est affaiblie. Donc, pour lui, il est clair que sans un soutien spécial de la grâce, la liberté ne peut pas se relever. Alors, il y a même des passages où on se demande si on la garde encore, mais s'il faut dire qu'on la garde quand même, mais au moins libre arbitre. Mais elle ne sert plus à grand-chose parce qu'on est mené par le bout du nez, par le péché, par les mauvaises habitudes, par tout ça. Mais alors, quand il parle évidemment de la grâce, au contraire, il va revenir sur la liberté chrétienne, comme saint Paul. Et c'est quand même de lui la fameuse phrase qu'on cite souvent, « Ama et fat quod vis »,« Aime et fais ce que tu voudras ». Alors ça, c'est très, très réconfortant d'entendre ça, mais il faut savoir le contexte. Il a écrit en fait deux fois. Il écrit d'abord à un père de famille qui lui demandait s'il donnait une raclée à son fils, qui se conduisait mal, enfin disons, reprendre vertement son fils qui se conduisait mal. Donc il lui dit, voilà, aime ton fils et puis après tu feras ce qu'il faut pour son bien. Et s'il faut qu'il reçoive une grosse correction, et tu le feras, mais tu le feras à ce moment-là, pas pour décharger tes nerfs ou parce que c'est vraiment trop insupportable. Et puis il l'a dit aussi à un officier de police qui devait pratiquer la répression. Ama et fat quod vis, c'est le contexte est à chaque fois un petit peu curieux. Mais bien sûr, c'est profondément vrai. Mais à condition que l'amour, ça ne soit pas seulement des bons sentiments. Quoi. C'est qu'on est vraiment pénétré du bien de l'autre et on veut le faire. Et bien à ce moment-là, on cherchera le moyen de le faire le mieux qu'on peut. Quoi. Pour certaines fois, ça sera être plus sévère, d'autres fois, ça sera au contraire être plus doux et patient. Ça dépendra des situations. Alors saint Jérôme, qui est à peu près un contemporain de saint Augustin, a lancé un mot. Ce mot, c'est saint d'Hérèse. Ça ne vous dit pas grand-chose, pourtant ça figure au dictionnaire. J'ai vérifié, c'est un mot français, saint d'Hérèse. Il s'en sert pour caractériser le remords de Caïn après sa faute. Sa saint d'Hérèse était en révolte. Enfin, sa conscience le torturait. Alors, c'est de là que vient, vous savez, toute cette légende un peu développée à l'époque romantique. L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Enfin, c'est pas dans la Bible, ça. Mais c'est saint Jérôme qui, en quelque sorte, prolonge le récit et parle des remords de Caïn. Et donc ça, il parle de la syndérèse qui va devenir un mot pour désigner la conscience, mais qui désigne d'abord le remords, le malaise de la conscience malheureuse. Voilà. Et alors, il emploie une image qui est très jolie, il dit, c'est comme l'étincelle de l'âme, c'est la trace en l'homme de la justice originelle, celle dans laquelle nous avons été créés pour le bien, et quand nous ne faisons pas le bien, ben, il y a quelque chose qui proteste, si corrompu, si pécheur que soit l'être humain, il y a quelque chose en lui qui lui dit que c'est pas ça. Alors je continue, saint Anselme a écrit tout un traité qui s'appelle, non pas sur le libre arbitre, mais sur la liberté de l'arbitre. Il a renversé un peu le titre pour dire ça. C'est-à-dire, il dit, c'est quand même curieux, on définit généralement la liberté comme la possibilité de faire le bien et le mal. Mais alors Dieu, vous allez me dire que Dieu a la possibilité de faire le bien et le mal, mais c'est pas possible. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre définition de la liberté. Ça commence comme ça. Et finalement, il poursuit son interlocuteur, parce que c'est un dialogue, jusqu'à l'amener à dire, bah, oui, la liberté, c'est au contraire de vouloir le bien, c'est de vouloir complètement le bien de tout son cœur, c'est de vouloir le bien. Alors bien sûr, il y a quelque chose qui est vrai dans le fait que notre volonté, elle n'est pas programmée, donc elle peut osciller d'un côté ou de l'autre, mais c'est pas ça vraiment la liberté. La liberté n'est pas la peccabilité, c'est très important ça. La liberté n'est pas la peccabilité. Sinon, Dieu serait coupable, pourrait pécher. Qu'à Dieu ne plaise, évidemment. Donc, il dit, parmi les êtres qui ont été créés libres, ou qui sont naturellement libres, comme Dieu, eh bien, il y en a qui peuvent pécher. C'est l'homme et l'ange. Mais ce n'est pas la liberté. La liberté n'est pas la peccabilité. Le fait que notre volonté encore trop faible puisse osciller d'une hypothèse vers une autre, c'est bien sûr le point de départ, mais ça ne définit pas profondément la liberté, qui n'est pas de faire ce qu'on veut, mais de vouloir ce qu'on fait. C'est-à-dire d'être totalement investi dans ce qui nous paraît important et de s'y donner complètement. C'est ça la liberté.
Alors, que veut dire le mot peccabilité, je crois ?
Peccabilité, la possibilité de pécher. C'est ça. Alors, saint Bernard de Clairvaux a écrit un livre qui s'appelle Le Libre Arbitre, justement, des libéraux arbitriaux, dans lequel, alors, il chante la beauté de la liberté du baptisé, que la liberté, c'est l'image en nous même de Dieu. Dieu, quand on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, on veut parler de sa liberté, en fait. Mais c'est la liberté telle que la voit Saint Bernard, c'est cette capacité d'aimer. Alors, je ne peux pas m'étendre trop longtemps sur Saint Thomas d'Aquin, qui reprend la notion de syndérèse que Jérôme avait lancée, et va lui donner un certain développement. Alors, je vous fais un aveu, pour préparer ce cours, j'ai fait une découverte. C'est qu'en fait, la réflexion de saint Thomas sur la conscience ne doit apparemment rien à Aristote. Il n'y a pas de notion de conscience chez Aristote. Enfin, sous bénéfice d'inventaire, hein, si j'ai demandé à des spécialistes de la pensée d'Aristote de m'éclairer, mais à aucun moment saint Thomas ne fait appel à un concept philosophique de la conscience. C'est pour ça qu'il va chercher ce mot un peu bizarre, qui l'a trouvé chez saint Jérôme, pour caractère. Curieusement, il n'a pas recours au terme qu'employait saint Paul. Et donc la conscience, alors saint Thomas la met parmi les facultés intellectuelles, la met au plus haut des possibilités de l'homme. Il a retenu de saint Jérôme l'étincelle de l'âme. Alors ça lui plaît aussi beaucoup. Il dit, mais voilà, nous avons en nous profondément inscrit, sans que le péché originel l'ait fait disparaître, une espèce d'aptitude, d'habitus, comme il dit, d'habitus au bien moral, qui est absolument infaillible, dit-il. Ça va loin. Qui est infaillible et qui est en nous. Alors, c'est-à-dire que nous avons le cadre de pensée du bien. Ça ne veut pas dire forcément que nous le ressentons, que nous... Il ne parle pas de la conscience psychologique, là. Il a un autre mot, d'ailleurs, pour dire la conscience psychologique. Il dit, il y a, quelque chose qui, en tout cas, incline vers le bien et murmure contre le mal. Et comme Saint Jérôme, il dit, c'est la survivance de l'état de l'homme avant le péché originel. Alors, j'en arrive à des choses plus modernes, évidemment. Il est indispensable de faire une place, évidemment, à la réaction du protestantisme. Alors, vous le savez, Luther a une vision extrêmement sombre de la nature humaine. C'est non seulement l'homme est dégradé par le péché, mais il n'a plus rien d'intact. Il n'y a plus du tout la Sainte Thérèse et tout ça, c'est fini. Hein. L'homme est impropre à percevoir les intentions divines. Tout ce qu'il peut faire par lui-même, c'est de se rebeller contre Dieu, c'est tout. Donc, supposer qu'il y a une prétendue liberté, comme il dit, qui existerait dans l'homme pécheur et qui la mènerait naturellement vers le bien, ça c'est une folie, donc il refuse ça. Par contre, il va faire une place lui aussi à la liberté chrétienne, qui vient de la grâce, et qu'il caractérise un peu comme saint Paul, comme la possibilité d'être délivré de toute crainte, de pouvoir, une fois qu'on s'est remis complètement à Dieu, ce qui est pour Luther, la foi qui est une remise complète de l'homme à Dieu, eh bien dans le fait que je dis à Dieu, bah tu juges, moi je n'ai pas le moyen de juger, je me confie à toi, si tu veux me condamner, tu me condamnes, si tu veux me sauver, tu me sauves, je me livre complètement entre tes mains, et alors là nous éprouvons une liberté, c'est-à-dire nous sommes plus en train d'évaluer, dire, voyez, où j'en suis, ce que j'ai commencé, est-ce que c'est mieux, c'est moins bien, est-ce que je mérite l'enfer ou est-ce que je mérite le paradis, j'en sais rien, etc. Mais je suis libéré de tout ça par le fait de me jeter dans les bras du bon Dieu et de lui dire, voilà, tu jugeras de mes. Alors, évidemment, en réaction, on voit que l'Église, avec le Concile de Trente, et puis beaucoup de choses du 16e et du 17e siècle, remet en valeur évidemment l'ancrage de la loi morale dans la nature humaine. Alors ça, c'est un peu ce qu'on va voir avec le prochain cours sur la loi naturelle. Donc en disant, mais si il y a bien quelque chose que l'homme peut arriver à trouver des intentions divines, et à mon avis, c'est ce que dit saint Paul d'ailleurs. Mais enfin, donc, et d'autre part, elle parle d'un progrès de la conscience, c'est-à-dire de faire que la conscience a besoin d'être éclairée. C'est pour ça que l'Église enseigne la morale, elle enseigne les commandements, elle enseigne même plus précisément les efforts qu'il faut faire pour avancer avec le Seigneur. Donc c'est une vision très progressive de la vie morale qui est souvent d'une grande justesse. C'est l'époque de... Alors on les a un peu ridiculisés à cause de Pascal, les casuistes, vous savez, ça pense que c'est les gens qui, comme de, je ne sais plus tel prêtre, on disait il a enlevé le péché du monde parce que si grâce à lui, on peut toujours arriver à s'arranger avec la loi divine, ou c'est Tartuffe disant, vous savez, on vous dira les secrets d'étendre les consciences, de racheter le mal de nos actions par la pureté de nos intentions. Et pécher en secret, c'est encore un péché. La tentative de séduction d'Elvire c'est un chef-d'œuvre de casuistique. Mais en fait, la casuistique est beaucoup plus sérieux que ça. C'est de voir en quoi la loi morale rejoint des cas concrets. Quoi. Parce que si on se contente de principes trop généraux, on ne peut pas aider la conscience à s'en sortir. Donc, on voit que les casuistes ont été extrêmement utiles et par le biais de la confession régulière, de proposer un vrai chemin de con. Alors ça, évidemment, c'est à l'opposé absolu de ce qu'avait dit Luther. Alors, il y a aussi, évidemment, à l'époque moderne, plus moderne encore, c'est-à-dire surtout après les Lumières, toute la revendication de liberté, alors qui va se faire de plus en plus intense et qui s'appuie sur une vision alors de la liberté qui n'est pas du tout celle des pères de l'Église ou de la Bible, mais qui est l'idée de l'autonomie. C'est-à-dire l'homme est libre s'il est autonome, s'il n'a rien à demander à personne. Et la liberté, c'est d'être son propre point de départ, en quelque sorte. Donc, on passe imperceptiblement de l'autodétermination à l'autonomie, et puis avec Sartre, ça va encore plus loin, c'est l'autofondation de soi, enfin, c'est fondateur de soi. Bon. Donc on voit un mouvement presque continu qui s'éloigne de la vision théologique de la liberté. Alors d'un autre côté, on voit que la référence à la conscience sert aussi beaucoup à partir des Lumières pour s'opposer en gros à l'enseignement de l'Église en disant, ben voilà, les hommes sont devenus majeurs, ils jugent plus pas d'après ce qu'on leur enseigne et qu'on veut leur faire peur en leur disant si vous faites ça, vous irez en enfer. En conscience, on peut estimer que certaines choses sont bien et elles seront donc bien dans ce cas-là. Et l'Église qui plus ou moins assimilée à une sorte d'État totalitaire qui dirigerait les consciences et qui obligerait à faire des choses sans vraiment qu'il y ait d'assentiment. Il faut bien reconnaître que dans certains abus, mais c'était que des abus, mais on était un peu arrivé à ça, hein, notamment après la révocation de l'édit de Nantes, il est clair qu'en France, il y avait, ou bien si on voulait rester protestant, on immigrait, mais si on restait en France, il fallait plus ou moins qu'on soit catholique quand même. Alors il y a eu très nombreux cas d'hypocrisie, de gens qui ont dit, bon, puisque le roi le veut comme ça, ben, bien sûr, ben, oui, on ira venir faire nos pas, qu'on ira se confesser, pas de problème, mais enfin, bon, je garde mes convictions par-dessous. Donc cette espèce d'hypocrisie qui est rendue nécessaire par un système trop tatillon qui prétend agir. Alors ça n'a pas été la pratique de l'Église, c'était un peu plutôt la pratique de l'État, mais malgré tout, dans l'imbrication du politique et du religieux qui était le fait de ces époques-là, eh bien, on voit ce qu'a voulu dire la revendication de la conscience, en disant liberté de conscience. Alors, on arrive à ça avec la Déclaration des droits de l'homme. Liberté de conscience, c'est la conquête de l'homme moderne qui n'est plus un mineur qui devrait demander la permission à papa, maman pour faire n'importe quoi. Et on est devenu majeur, etc. Alors, la réaction, malheureusement, le mot de réaction, il est un peu sévère, mais il y a un peu de ça. On voit qu'il y a une espèce de durcissement, surtout dans l'Église du XIXe siècle, qui condamne explicitement la liberté de conscience. Hein. Il ne faut pas l'oublier que Grégoire XVI, dans Mirari Rivos, a condamné la liberté de conscience. Alors, évidemment, c'était pas ce qu'on va mettre, nous, maintenant, sous liberté de conscience. Pourquoi il le condamnait ? Parce qu'il dit, ben, c'est en fait du relativisme. C'est dire que tout se vaut, que toutes les manières de voir sont égales. Donc, c'est très dangereux. Et puis, ça sape la société chrétienne. Quoi. On a plus confiance dans les prêtres, on a plus confiance dans... etc. Donc, c'est une position réactive, quoi. Il y a du vrai quand même, tout n'est pas faux, mais malgré tout, évidemment, c'est très insatisfaisant quand même comme position. Donc cette méfiance pour le libéralisme qui est le fait du 19e siècle, notamment le syllabus de Pinoff, qui est assez terrible sur le sujet, mais on voit que malgré tout, d'abord, un certain nombre de penseurs catholiques ne sont pas dans cette ligne-là. Il y a notamment Newman. Alors Newman est assez admirable vous savez, c'est un anglican converti à l'Église catholique, et dans sa lettre au duc de Norfolk, il répond à la critique qu'on lui disait: ah ben monsieur Newman, maintenant vous êtes catholique, alors vous allez penser comme le pape, hein, vos convictions personnelles innées vous les laisserez compter, vous êtes maintenant le petit doigt sur la couture du pantalon et vous faites ce qu'on vous dit de faire. Et alors il répond très profondément au duc de Norfolk en disant: pas du tout, au contraire, ma fidélité à l'Église romaine me donne un devoir d'agir comme un homme raisonnable, responsable, de savoir pourquoi je fais les choses et de m'incliner que si je suis persuadé que c'est Dieu qui me le demande, hein, peut-être par la médiation de l'Église, mais je ne sais pas pour obéir à un homme, c'est parce que j'aurais convaincu à ce moment-là que c'est Dieu même qui me le demande. Et alors il y a ce fameux toast où il lève son verre au pape et à la conscience, pour montrer qu'il y a deux autorités en quelque sorte, la conscience, comme il dit, le témoin le plus proche. C'est-à-dire que ça, in fine, c'est ma conscience qui m'éclaire. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est seule, et c'est qu'elle, elle-même s'appuie sur la parole de Dieu, sur ce qu'on a entendu, etc. Donc voilà pour Newman, et évidemment avec le XXe siècle, eh bien on assiste à quand même un retournement à l'égard de la liberté de conscience, qui est caractérisé par Vatican II, mais déjà avant, largement par Pie XI, et après par Jean-Paul II. Donc la déclaration Dignitatis Humanae de Vatican II, vous savez, il y a un texte difficile, hein, c'est le dernier texte signé du Concile qui a été l'objet de débats extrêmement houleux, donc développe l'idée que l'homme créé libre et responsable par Dieu, pour pouvoir chercher la vérité, a besoin de... Enfin, que sa quête ne soit pas contrainte par quelque chose d'obligatoire qui est dans la société, qui l'obligerait à accentuer, à sentir à des choses avec lesquelles il n'est pas encore d'accord. Donc la dignité, justement à cause de la vérité religieuse, elle est une chose si grande et si digne qu'on n'a pas le droit d'employer les moyens de la contrainte, là où seule la liberté peut s'incliner devant la vérité de Dieu. C'est cet enseignement de Vatican II que Jean-Paul II a mis en valeur, enfin, etc. Alors, dans les 10 minutes qui me restent, je voudrais essayer de faire la synthèse. D'abord, nature de la liberté. Alors, il faut se rendre compte que quand on parle de liberté, on parle de deux choses différentes. Alors, on peut prendre liberté, libre arbitre, mais enfin... Ou bien on parle de cette liberté de choix qui se présente quand on a plusieurs possibilités. Je suis libre de, je sais pas, de prendre le métro ou l'autobus ce soir pour rentrer chez moi, enfin, supposons. Hein, c'est bon, il y a rien qui m'empêche de faire l'un ou l'autre, donc je suis libre en ce sens-là. Mais bien plus importante est la liberté qu'on va appeler de qualité. Enfin, je prends ça. Un ouvrage qui a marqué sur le sujet, qui résulte d'une décision prise dans le sens du bien. Je pense que ça serait bien que je m'inscrive pour servir les pauvres, par exemple. Mettons, l'hiver arrive, voilà. Je prends une décision, et cette décision, je vais la maintenir, même si c'est difficile, je vais essayer d'y rester fidèle, je vais essayer d'aller jusqu'au bout de mon choix, et ainsi je serai libre, parce que j'aurai fait quelque chose qui n'est peut-être pas facile, mais qui va donner du sens à ma vie. Donc voilà, vous voyez bien ces deux sens du mot liberté. La première n'est qu'une étape en vue de la seconde. Dieu m'a laissé dans un état la détermination où je ne suis pas conduit par un instinct infaillible dans un sens ou dans un autre, mais la vraie liberté, c'est celle qui me porte vers le bien. C'est celle qui m'amène. Alors, l'exemple qu'on cite souvent aujourd'hui, c'est celui du musicien. Le musicien qui décide de... Enfin, la personne qui décide d'apprendre la musique va devoir s'imposer toute une discipline, tout un tas de choses pour avancer dans la musique. Mais une fois qu'elle sera arrivée au bout, elle disposera d'une capacité de jouer, de faire toutes sortes de choses avec cet art. Donc, en fait, la liberté, elle est au terme. Elle n'est pas au point de départ. Cette liberté-là, qui est la liberté de pouvoir faire quelque chose qui a vraiment du sens et de la valeur pour moi. Vous voyez bien ça, hein? C'est pas très original, hein? Peut-être que vous saviez déjà ça, vous aviez déjà trouvé ça. Donc, par contre, celui qui, pour rester libre, ne s'engage à rien, il n'est pas libre parce qu'il est dans une instabilité. Et puis, comme je mets là, il est soumis à son petit moi tyrannique qui le maintient dans la peur du changement ou dans l'appréhension d'une chose ou d'une autre. Alors seulement notre liberté est malade. Alors c'est la deuxième découverte que saint Augustin nous a aidé à faire, c'est-à-dire que notre liberté n'est pas en bon état, que nous ne sommes pas vraiment libres, que nous, saint Paul nous a dit déjà qu'on peut voir le bien et pas arriver à le faire. Donc souvent nous revenons en arrière, c'est-à-dire que nous ne voulons pas être libres. C'est clair que beaucoup de gens, surtout quand ils commencent à être victimes d'une addiction ou de quelque chose comme ça, perdent leur liberté, à la limite, ils disent, tant pis, je vais aller jusqu'au bout de la déchéance, je vais aller jusqu'au bout, je ne veux pas lutter, j'en ai assez. Donc la liberté, quand on ne veut pas être libre, et au fond le péché, c'est peut-être ça, c'est de ne pas vouloir être libre, elle aboutit à une régression de l'homme qui, au lieu d'être maître de lui-même, se découvre extraordinairement dépendant de ses instincts, de ses craintes, en tout cas incapable d'aimer. Alors, il restera toujours une certaine capacité, tant qu'il sera sur terre. Il restera une capacité, mais c'est vrai que la marge, l'extension du choix va aller en diminuant. On voit bien ça avec l'addiction. Mais justement, jamais un être, si déchu soit-il, ne perdra quand même cette capacité encore d'un infime mouvement en direction du bien. C'est là-dessus qu'il faut faire fond pour ne pas désespérer des retournements de dernière minute. Et au fond, toute la vie chrétienne, ça va être de fortifier notre liberté. Dieu va se faire l'éducateur et le formateur de notre liberté, nous apprendre à être libres, c'est-à-dire en nous faisant faire des petits pas, et puis des plus grands pas, puis pouvoir courir, si possible, à la fin, comme on voit chez les saints. Donc, notre liberté ankylosée retrouve dans l'Église, grâce au sacrement, grâce à la vie chrétienne, sa mobilité. Péché, c'est comme une glaciation, c'est comme une nignification. Et donc, pour retrouver notre liberté, il faut tous les moyens que Dieu met à notre disposition pour guérir notre liberté. Ça va ? Enfin, je voudrais dire que cette liberté, quand elle est en voie de remise sur pied, a deux figures. L'acquiescement et l'initiative. Je m'explique. Quand la Vierge Marie voit l'ange qui lui dit « Tu vas concevoir et enfanter un fils auquel tu donneras le nom de Jésus », on pourrait dire, au sens habituel, elle n'est pas libre, puisqu'on lui dicte un programme qu'elle est... Elle n'a pas barre dessus, elle ne dit pas non, moi finalement je voudrais plutôt autre chose, etc. On lui dit, voilà, tu vas concevoir enfanter un fils. Pourtant, on lui demande d'assentir, d'être d'accord, de s'engager dans ce projet-là, de le faire sien, de l'intérioriser. Donc, la liberté de Marie, c'est un acquiescement. Et il y a beaucoup de liberté dans l'acquiescement. L'acquiescement, ce n'est pas parce que je n'ai pas l'initiative du projet. C'est ça peut-être on a du mal à comprendre aujourd'hui, parce que, vous savez, on dit, pour les enfants, à dire on va faire comme tu le sens, etc. Mais la liberté, c'est pas ça. La liberté, c'est qu'on propose quelque chose qui en vaut la peine, dit veux-tu, comme dit Jésus, veux-tu connaître si tu veux être parfait, voilà. Donc, l'acquiescement est la première forme de la liberté. C'est grand de recevoir la demande, le conseil, le commandement du Seigneur, poser même des questions, comme la Sainte Vierge qui pose une question pour mieux savoir ce que Dieu lui demande, et puis finalement de dire fiat. Alors l'autre figure de la liberté, c'est l'initiative, c'est-à-dire que sur beaucoup de domaines, Dieu nous laisse un champ d'action. Premier homme est dans le jardin, il dit, tu peux manger tous les fruits. Il ne va pas les manger tous, mais bah, il dira, tiens, bah, aujourd'hui, je vais plutôt prendre des mangues, aujourd'hui, je vais prendre des bananes. Mais ça veut dire qu'en fait, Dieu, ayant déterminé un certain nombre de choses qu'il ne voulait pas, ou de choses qu'il nous demande, par contre, sur toutes les autres, nous laisse une immense capacité de nous investir, d'inventer, de trouver des manières nouvelles de faire les bonnes choses. Et ceci, je crois, est très important, de voir qu'il y a place pour cette capacité de s'investir. Comme, pour reprendre l'image du musicien, une fois qu'il maîtrise un peu son art, qu'il sait faire jouer, eh bien, ça va aller dans tous les sens, il va jouer telle ou telle pièce, telle autre. Enfin, une fois qu'il aura acquis cette aisance et cette capacité, donc la liberté, elle a ces deux figures, l'acquiescement et l'initiative. Vous m'avez compris. Bon. Alors, un dernier mot sur la conscience. Donc, oui, Saint Jérôme avait raison, c'est la trace de notre vocation première au bien et à l'amour. Elle est inscrite dans notre nature et qui, par une grâce de Dieu, subsiste même dans l'état de pécheur. Mais elle est donc, en ce sens, il faut lui faire une place et l'honorer, la distinguer du simple comportement acquis. C'est pas seulement parce que notre milieu pense comme ça, parce qu'on a des cas très curieux de gens qui... Tout leur milieu et va dans un sens, mais leur conscience en dit, mais attention, c'est pas ça. C'est pas faire monter le grand-père au cocotier parce qu'il peut plus se nourrir et qu'on supprime une bouche inutile. C'est pas quand même ça qu'il faudrait. Enfin, c'est pas bien. Donc la conscience n'est pas que sociale. Alors, bien sûr, elle n'est pas indépendante de notre vie en société, mais elle a quelque chose de plus profond. Et de même, il ne faut pas, évidemment pas confondre la conscience avec l'intériorisation des interdits sociaux, le surmoi freudien, une espèce d'instance, enfin disons répressive, qui pèse sur nous et qui nous rend malheureux à chaque fois que nous n'allons pas dans le bon sens. Hein, ce serait très réducteur, évidemment, de ramener la conscience à ça. Et puis, c'est pas libérant du tout, parce que le surmoi, c'est pas très stimulant, quoi. Pourtant, la conscience n'est pas un guide infaillible. Elle peut être déformée ou endormie, notamment si on s'en est longtemps éloigné et si on n'a pas tenu compte. Hein. Mais il ne faut jamais agir contre sa conscience. Conscience, c'est toujours l'ultime, comme disait Newman, c'est le relais le plus proche de nous. Alors, bien sûr, nous avons un devoir d'éclairer notre conscience et pas la prendre comme un produit brut. Mais si finalement, avec tout ça, elle me dit non, non, tu dois pas faire ça, ben, il faut qu'on l'écoute quand même et qu'on essaie de s'en inspirer, et à ce moment-là, même si on se trompe, ben c'est pas grave, le bon Dieu verra qu'on l'a fait avec le souci de nous éclairer, de faire, et ben tant pis, on se trompera peut-être, il y a des gens dans la Bible qui se sont trompés aussi, mais ce n'était pas, ils essayaient d'être honnêtes avec le bon Dieu, et ça, et ça, ça suffit. Alors, conclusion rapide. Donc, le réceptif que nous étudions aujourd'hui sera un réceptif à la fois volontaire, la liberté, et davantage intellectuel qui est la conscience, enfin, si on suit la répartition thomiste, ce dispositif est admirable. Et on voit combien Dieu a veillé à ce que notre réception de sa loi, nous ayons, j'allais dire, les outils qu'il fallait, les dispositions qu'il fallait pour essayer d'en profiter et de le faire nôtre. Alors bien sûr, le péché a compliqué les choses, a un peu faussé le système, mais ne l'a pas fait disparaître, et le Seigneur n'a pas renoncé à son projet, il l'a au contraire confirmé pour que nous restions des partenaires libres. C'est là l'erreur du jansénisme, c'est de dire, à cause du péché, eh bien Dieu a dit, bon, maintenant la liberté, elle est définitivement fichue, je vais mettre un instinct infaillible chez certains qui les amèneront à la foi et à la sainteté, et chez les autres, je les laisserai à leur triste sort. Hein? Donc, c'est ça l'horreur du jansénisme, c'est d'imaginer qu'au fond, Dieu s'est découragé, et puisque l'homme n'allait pas librement vers lui, eh bien, s'est dit, je vais remplacer la liberté par une forme de contrainte. Voilà. Bon, je vais essayer, là aujourd'hui, j'ai à peu près tenu mon créneau, mais...